juste deux mots pour dire que le Gams-Rhône-Alpes a été créé suite à un travail qui a été mis en place avec l'association départementale d'éducation pour la santé à Lyon. Et donc, ce sont des associations de femmes africaines qui sont venues demander à une sociologue qui travaillait à l'ADES du Rhône pour faire de la prévention sur les mutilations sexuelles féminines dans les communautés africaines de Lyon. Et donc, les professionnels se sont dit, mais nous, on ne connaît pas ce problème. Donc, ce serait bien qu'on, justement, qu'on forme un groupe de travail pour réfléchir afin de mieux, justement, agir. Et suite à ce travail, il y a eu un document qui a été produit qui s'appelle « Mieux comprendre pour prévenir ». Et à la suite de ce travail, il y a eu une création, enfin, la création du Gams-Rhône-Alpes en 2007. Alors, donc, les axes du travail du Gams-Rhône-Alpes s'articulent autour de trois actions. Donc, la prévention, comme tout le monde, dont on fait de l'information, la sensibilisation, et puis on organise des échanges avec les femmes africaines. Et puis nous formons les professionnels de santé, les étudiants en médecine, les étudiants en fait, d'école de sages-femmes. Et plus récemment, on intervient dans l'institut médico-légal. Donc nos actions, ça concerne aussi les permanences dans les villes autour de Tours de Lyon. Nous travaillons en partenariat avec les CPF, ça c'est très important. Les femmes que nous recevons sont adressées par ces structures, hein, dans le planning familial, le forum réfugiés, les CDAG, les réseaux de périnatalité. Ça, non, c'est pas bien. D'accord, très bien. Et donc, le troisième axe de notre travail consiste vraiment à l'accompagnement des familles dans leur demande de protection des filles. Donc, c'est tout ce qui est demande d'asile. Pour protéger les filles menacées par les MSF si jamais les parents sont obligés de retourner dans leur pays. Alors, donc, j'ai mis le titre « La réparation comme tremplin pour la prévention des MSF auprès des femmes ». En fait, quand les femmes viennent nous voir, on n'oblige personne, hein, dans notre association, à passer par nous pour justement faire la réparation. Comme on est sur Internet, du coup, les femmes nous appellent, les filles nous appellent, et ils ont dit oui, on a appris que justement, on peut faire la réparation aussi au niveau de la région, enfin, de Lyon. Comment ça se passe? Dans notre rôle, mon rôle en tant que coordinatrice, c'est vraiment d'accueillir ces femmes-là, de les écouter. Et comme j'avais dit tout à l'heure, les femmes que nous recevons en région Rhône-Alpes sont des femmes vraiment qui sont en demande, sont des demandeurs, enfin, demandeuses d'asile, ou sont des femmes qui sont dans des situations, enfin, ou qui sont des primo-arrivantes qui viennent nous proposer justement, enfin, cet accompagnement. Et donc, on les accompagne, on les informe sur leurs droits, sur le dispositif, sur ce qui existe. Et nous en profitons pour faire aussi la sensibilisation, parce que la majorité sont des femmes qui ont aussi leurs enfants. Et le plus gros du travail, c'est vraiment l'orientation vers les structures de droit commun. Donc les structures, c'est par exemple les femmes qui sont venues nous voir par rapport à un problème de divorce, problème de violence. Et on oriente vers les associations comme le CIF ou comme Femmes contre les intégrismes. Voilà. Donc, au niveau du dispositif de la réparation à Rhône-Alpes, en fait, c'est une équipe pluridisciplinaire. Ça peut être critiqué, mais comme on dit, il n'y a aucune obligation. Les femmes peuvent appeler directement le service du professeur Rodran. Et celles qui nous appellent aussi, eh bien, c'est aussi une porte d'entrée. Il y a plusieurs portes d'entrée. Et donc, dans l'équipe, nous avons la porte d'entrée, par exemple, si je prends le cas du GAMS, hein, les femmes appellent. Après, j'appelle la sage-femme. Et à Lyon, en fait, c'est vrai qu'on souhaite que les femmes passent par les psychologues, par la psychologue. Et la plupart des cas, les femmes passent pour un premier contact. Mais après, elles ne viennent pas. Parce qu'il y a une interprétation de la psychologue qui, enfin, les femmes africaines, en fait, ne souhaitent pas forcément voir une psychologue. Ce n'est pas du tout dans leurs habitudes et puis elles n'ont pas envie. Et ça peut se comprendre. Donc après, il y a la consultation avec le chirurgien et puis l'infirmière qui fait partie du dispositif. J'ai mis une sexologue, mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de sexologue dans l'équipe parce qu'il y avait une sexologue qui était là au départ quand on avait monté le dispositif et qui n'est plus, qui a eu un poste ailleurs et qui n'en fait plus partie. Alors, donc, la médiation culturelle dans le dispositif de réparation. Nous avons été financés par l'ARS pour faire la médiation culturelle. C'est surtout pas une obligation, mais c'est de comprendre pourquoi il y a des rendez-vous ratés, il y a des mauvaises compréhensions des fois du dispositif. Et donc, mon rôle, c'est juste pour justement accompagner les gens, expliquer le dispositif aux femmes et de comprendre aussi pour quelles raisons elles ne vont pas au rendez-vous, elles ne vont pas jusqu'au bout. Et ça peut se comprendre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, personne n'est obligé d'aller jusqu'au bout. On est là juste pour faciliter pour celles qui le veulent, pour justement aller jusqu'au bout. Et une fois, en fait, on a eu un cas qui nous a poussé dans ce travail, c'est que une femme était venue nous rapporter que le fait que toutes les équipes regardent aussi le sexe, c'est gênant. Et d'autres qui, dans d'autres dispositifs, aussi disent que oui, la cicatrice n'est pas jolie. Bon, c'est vrai que dans les équipes médicales, hein, des fois, utilisent des termes qui ne sont pas appropriés, qui sont mal perçus aussi par les femmes. Et donc, j'essaie aussi d'expliquer que c'est pas vraiment pour dévaloriser l'acte, mais c'est simplement, ce sont les termes techniques. Alors, donc, justement, mon rôle, c'est aussi d'amener justement les femmes qui ont demandé à faire la réparation à gérer les représentations et les incompréhensions que peuvent engendrer les relations entre les femmes et le monde des soins. C'est ce que j'ai expliqué un peu. On essaie en fait de déconstruire les représentations par rapport à ce qu'elles ont, elles ont subi. Elles disent que oui, moi, je viens le faire, mais je ne suis pas convaincue de cette histoire, donc j'aimerais bien comprendre. Et le monde de soins, il y en a qui sont aussi, ce n'est pas tout le monde, hein, mais deux fois, qui comprennent mal, bien qui essaient de moraliser ou bien qui essaient d'utiliser les termes qui ne sont pas appropriés. Et donc, c'est important justement de comprendre pourquoi ces femmes ont subi cette pratique. Et le plus important, on en parlait hier, hein, il y en a qui disent que oui, c'est un acte maltraitant. Mais dans l'esprit des femmes des femmes qui ont fait faire ça à leur fille, c'est plutôt un acte bien faisant. Voilà. Donc, justement, ça choque, mais il faut aussi mettre les choses dans leur contexte. Pourquoi une femme qui a fait faire ça à sa fille, c'est pas vraiment pour lui faire du mal. Au départ, c'était ça. Mais c'est justement pour reprendre aux normes sociales imposées par le groupe. Et donc, le plus délicat à faire évoluer, ce sont les représentations que chacun a justement de cette pratique-là. Et donc, une meilleure compréhension réciproque facilitera justement le travail de prévention et de prise en charge médicale, psychologique et sexologique des femmes ayant subi les mutilations sexuelles. Mais comme je dis, ce n'est pas toutes les femmes qui passent par le biais de psychologues ni de sexologues. Au niveau des termes, on utilise souvent ces termes, la réparation, reconstruction. Alors, c'est important justement de nous questionner, de nous entendre aussi sur les termes. Qu'est-ce qu'on répare? Qu'est-ce qu'on reconstruit? Pour qui? Pourquoi? Quand? Et quand disent les femmes qui sont venues faire cette demande-là, donc j'ai pris quelques phrases des femmes qui sont venues nous rencontrer. Et donc, je pose les questions pour savoir pourquoi. Bon, ça vient pas au premier rendez-vous, bien sûr, en discutant longuement avec les femmes. Et elles disent que, justement, elles veulent faire la réparation parce que, là, c'est le cas d'une femme que j'ai reçue qui me dit que mon mari, qui ne connaît pas ça, j'ai mis ça entre guillemets pour dire que, justement, c'est un sujet tabou. Hein, déjà, touche à la sexualité, c'est un sujet tabou, on ne prononce pas. Et au niveau de l'excision, on ne dit pas tout. Et donc, c'est des métaphores, on utilise souvent des métaphores pour parler justement de ces pratiques. Et donc, elle dit que dans son pays, de son mari, ça ne se pratique pas. Et donc, elle a dit, ben, oui, toi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Et bien, justement, c'est pour parler justement du clitoris, et on ne peut pas non plus prononcer ce mot-là. Donc, je fais ça pour lui faire plaisir. Alors, donc, une qui dit, j'ai rencontré quelqu'un qui trouve que je ne suis pas normale. J'aurais dû se mettre normale, entre guillemets, mais c'est la phrase de la femme. Et je vais faire ça pour être comme tout le monde. Tout le monde, qui est tout le monde, c'est justement... Une des jeunes filles qui avait fait ça parce que, justement, dans son lycée, bien, il y avait un groupe qui avait fait un exposé sur l'excision. Et donc, elle s'est rendue compte qu'elle n'est pas comme tout le monde. Un autre témoignage qui dit que j'ai un mauvais souvenir du premier rapport, que je ne peux même pas imaginer vivre avec un homme. Donc, c'est une femme qui était venue, justement, pour se renseigner sur la réparation. Mais aujourd'hui, cette femme a arrêté, enfin, n'est pas allée jusqu'au bout de sa démarche parce que, justement, elle dit, elle peut pas du tout, elle n'est pas encore prête à s'investir justement dans une relation amoureuse ni voire sexuelle parce que justement, elle a gardé un mauvais, enfin, tout le monde garde ce souvenir hein, de cet acte. Même si on n'a pas justement le souvenir, parce que ça a été fait très très jeune, il y a au niveau du traumatisme, il y a des choses qui peuvent ressortir à l'âge adulte. Et cette femme, en fait, a été excisée à l'âge de 7 ans, mariée à l'âge de 14 ans, et le premier rapport a été traumatique. Donc aujourd'hui, elle dit, pour elle, c'est plus la peine. Mais il y a un travail qui se fait avec cette femme pour justement... l'accompagner dans sa décision. Je ne me sens pas femme, c'est pour cela que je veux me faire réparer. Et ça, c'est aussi très, 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 très important. C'est déjà le temps? D'accord. J'ai peur de la réparation car j'ai peur de revivre ce que j'ai vécu lors de l'excision. Et c'est là où, en discutant avec la personne, mais justement, on dit que ça ne se fait pas comme ça ne se fait pas sans anesthésie, ça se fait sous anesthésie générale, mais là aussi, ce n'est pas non plus évident pour accepter. Je veux retrouver l'intégrité de mon corps, et la plupart des cas, des femmes qui viennent nous voir, c'est vraiment le fait de retrouver l'intégrité de leur corps qui les amène à consulter. D'autres, c'est aussi par rapport à la douleur. Alors, je vais juste enfin, dire ça parce que normalement, c'est la salle qui doit justement réfléchir, enfin, faire des recommandations. Donc, au niveau des perspectives, qu'est-ce qu'il faut faire justement ou avec les femmes qui ont subi les mutilations sexuelles féminines et qui viennent demander la réparation? Et donc, nous pensons que ce serait intéressant de monter les groupes de parole pour que les femmes puissent parler justement de leur vécu, et aussi pour que justement il y ait aussi une réflexion autour des outils de prévention en direction des familles, des professionnels, parce que justement les professionnels agissent selon leurs propres normes à eux, et les femmes ont leur vécu et c'est leur parole qui est importante, d'où l'intérêt de travailler avec les femmes pour justement pour pouvoir avancer dans cette lutte. Donc c'est pas du tout une conclusion, mais c'est une piste de réflexion. Alors, est-ce que la réparation est une fin en soi? Ou c'est un des outils, justement, parmi tant d'autres pour la lutte contre les MSF. Quelles sont vraiment les mobilisations associatives aujourd'hui en France? Et je pense que ici, il y a beaucoup d'associations qui sont dans la salle. Ce serait intéressant que chacun apporte ce qui est possible, hein, ce qui est envisageable pour essayer d'aller plus loin, parce que à mon avis, la réparation en tant que telle n'est pas une fin en soi. Ça, c'est mon affirmation, mais c'est à discuter. Donc, je suis allée très très vite, hein, vous m'excusez, mais c'est en gros ce que je pense justement mettre à votre discussion. Je vous remercie.
Well, I'm Faiza Mohammed. I work for Equality Now. It's a human rights organization. I'm based in Nairobi, where our regional office for Africa is located. And I want to thank the organizers for the invitation today. I've learned a lot in the last 2 days, and I'm happy to also share our experience with you. Just a quick background on Equality Now. Equality Now was founded in 1992. It started in New York. Then we had the Africa office, then London, and hopefully this year we'll have a Middle East office. Equality Now builds and mobilizes global solidarity to end violence and discrimination against women and girls all over the world. And FGM is one of our key program area, which we consider to be a human rights violation. And since 1993, the organization issued about 15 campaigns globally addressing FGM. Equality Now's first action campaign was directed at UNICEF, for example, in 1993. Just to give you some examples of the type of actions we have launched. At that time, UNICEF was hardly investing any resources. It was less than 1% of its annual budget, what they were putting into FGM. So, but today we are very happy to see UNICEF in the fight against FGM, leading and investing heavily. The other campaigns we have taken is stopping medicalization of FGM, first in Egypt, and then yesterday also, Noel mentioned it, the American Academy of Patriotics. And then more recently, we have been also campaigning in Indonesia, which also has endorsed medicalization of FGM. Equality Now also pushed for recognition of FGM as a political asylum issue in the US in the 1960s, the case of Siaga Sinja, a young woman from Togo. And also campaigning in support of Gambian activists who wanted to use the public space, the radio, to educate the public against FGM, but the state was not allowing them, so we mobilized to put pressure on the state to allow that. So those are the examples of the type of actions we have been taking. In terms of the fight against FGM, we see that a comprehensive approach or holistic approach is critical, and that the collective action, the complementarity that we all bring together will really make a difference in the long run. Sensitization is very key, not just speaking to the communities and all different kinds of stakeholders, but also engaging them in debates, creating dialogue between them. So that there is some kind of understanding takes place. Protection of girls and women through both enactment and enforcement of laws. And it has been cited that many countries have laws, but the biggest failure is, of course, the implementation part and not putting in place protection mechanisms or early warning systems that can also, you know, help detect when action is happening. So all this is aimed at prevention. But if we emphasize and address prevention, we end up reducing the need for care and treatment later on, which is very heavily costly. Our work is to hold governments accountable to fulfill their obligations, but lately also we are focusing on medical staff, the need to hold them accountable. And recently we had this Egyptian doctor who has performed FGM on a young girl, and who she died. And so we have been pushing, campaigning with partners in Egypt to hold this doctor accountable as well as the parent. For no reason, the judge just didn't give any sentence. But then we had to push for an appeal against the decision. And then that's what happened a couple of days ago, when it was announced that he's going to jail for two years, the doctor, and 1 year his clinic will be suspended. So we feel if a lot of action is taken against professional health professionals who violate the laws and who do harm, perhaps that can send a strong signal to others not to repeat. So for us, medicalization of FGM is problematic, and it's increasing. We heard this from the doctor from Egypt. So I'm not going to go through this, because you already heard about it. But I would like to take point out the case of Indonesia, where in 2010, the ministry passed a regulation which legitimized FGM and permitted medical professionals to perform it. We have been battling with this, with Indonesia, mobilizing international public pressure, but also going to all the human rights committees at the UN that the state was appearing before for their periodic reporting. And through this pressure, they changed the regulation. They issued a new one. But it still mentions that any practice of FGM should be done with regard for the health and safety of the girl and woman. So there's a contradiction still. And we are still pushing the state to come out with total ban and to educate the public and to put in place monitoring systems to ensure nobody's violating the law. Well, the healthcare of women is critical, and that's why we are in this battle to fight FGM, so that women can enjoy their health right to health, to enjoy their dignity, to be free from discrimination and all that. But if the health hospitals and health centers become the place where harm is being done, then it becomes problematic, and the focus therefore becomes to do something to do away with that. I think also this was discussed, so I will not go a lot into it, why this is done by health and why people are going to the health clinics. Let me just quickly go down to, so I just want to emphasize health staff should not do FGM, and we know that they do harm when they do that, and we know that, for example, in Egypt, what prompted the law against FGM was two doctors who performed FGM and girls died. This was way back in 2007, 2008. That prompted the country to finally ban the practice. And these health professionals are, of course, violating the ethical codes of their profession. So that is critical that we address it. So governments and both governments and medical institutions are therefore responsible for prevention and for the health being of women. And us as an NGOs, our role is to complement their efforts and to hold them accountable to their principles and to their obligations. We have a great tool in our hands, the African Protocol on the Rights of Women. In Article 5 of the protocol, which is focused on elimination of harmful practices, all the state parties are required to take necessary legislative and other measures to eliminate all these practices. And they have to invest in public education. They have to prohibit through law and take measures to, you know, end all these forms of harmful practices. Medicalization is also prohibited under Article 5 to also protect girls who are at risk, but also to give support to women and girls who are victims of FGM and other harmful practices, including health, emotional, and psychological counseling, as well as legal and judicial support. And so this is a very comprehensive instrument that gives us the opportunity to use to hold both state and legal professions accountable. So the recommendations really is to ensure that, you know, to push governments and medical institutions to take the leadership, because they have to fulfill their obligations. You know, institutions like FIGO should be more proactive in terms of, you know, withdrawing license from doctors or from health providers who are, you know, not in a position to adhere by their ethical codes. Governments need to take more action, and we have seen where they have taken action that things are moving better, like in Kenya, where they are aggressively following perpetrators of FGM, where they have put on hotlines for people to report, where they have set up a board, an NGO board that will, you know, an anti-FGM board that deals with implementation of the Anti-FGM Act that was adopted in 2011. In some counties, they are even pledging and putting up of money to educate girls and you know, towards prevention of FGM. So all that is happening when the state moves. So we have seen where action is done, that things move, and it's reducing. And that's what's contributing to the statistics that we have seen in Kenya, where it's coming down, is because there is a comprehensive, multiple faceted actions ongoing there. And the other thing we are also pushing is for governments to adopt a multi-sectoral approach to fulfill their obligations, so that it's not the business of just the Women's Affairs Ministry, but that all different ministries come together to deal with the issue. So in the case of FHM, it becomes also the Ministry of Health, Justice, Women's Affairs, all working together to ensure that women are protected from this harmful practice, but also that those who are affected are also given the necessary care that they need. You know, the earlier session we were talking about the protocols that are available, that are guiding health professionals. There are trainings mentioned earlier, but all that is still missing in a lot of African countries. And that's something, good practice that can be taken back and you know, bring on board those ministries of health that needs to be addressed. Also, this discussion about the pleasure centers, you know, the one that is in Burkina Faso, for example, and the communities are sensitive to, and I don't know how to say this, but the fact that FGM is done because of the pressure that comes through culture and communities, women are not going to, you know, openly seek this. You know, that's why you are seeing the challenges of women looking for discrete ways to deal with this, who need it. And the context will also be different, of course, in each country and for each woman also. Some might have support, some might not have support. But you know, as this is evolving and being tested, it is important to find ways that also sensitively presented in the communities, especially coming through the national health system, as opposed to just a center that is in an isolated place. You know, that's more visible, that you know, can put off many people. You know, because I know from my community, the Somali community, the word pleasure itself is problematic. So everybody is going to be up in arms just to think about pleasure. So those things need to be sensitively done, and that it should be accessible. If it's successfully, you know, helping women in different ways, then it should be accessible to all women, not to few women. So using available instruments and policies also to advocate against FGM is very critical. I have shared that earlier. And there are so many international statements and legal sources condemning medicalization, and I just listed a bit here, and I'm sure the PowerPoint will be available. But there is those WHO statements, other UN agencies, FIGO, the International Council of Nurses, and so all this should be used to, you know, advocate for ending FGM.
On ne peut pas justement laisser juste aux professionnels médicaux de créer des messages de prévention, mais de faire avancer la prévention. Je crois que c'est important d'impliquer les personnes, hein, les leaders charismatiques, les personnes les leaders, les relais communautaires. Et c'est aussi important justement d'utiliser les outils, en fait, les biais. Et les biais, ça peut être par exemple le théâtre, les contes, les chants. Souvent, on fait la prévention, c'est les professionnels qui le font, ça se fait dans les cabinets, dans les laboratoires, et puis on amène aussi dans les pays ou bien dans les communautés qui pratiquent l'excision. Et je crois que ça peut être contre-productif parce que ce n'est pas vraiment le mot des personnes, ce n'est pas leur code. Hein. C'est important de travailler avec les personnes. Et le problème d'excision, c'est un problème de groupe. Si une seule personne se lève pour dire que voilà, je crée un message de prévention, je vais faire la prévention, ça ne marchera jamais. C'est important d'impliquer tout le monde. Et on a des exemples. Hein. Je crois que Isabelle, bien les amis du GAMS peuvent répondre. Hein. Il y a le film qu'on appelle l'appel de Diego. Non, c'est quand tout le monde s'implique dans le village, on avance. On avance. Parce que ce n'est pas une affaire d'un individu, c'est une affaire de groupe. Pourquoi on pratique ? C'est justement pour perpétuer les normes qui sont imposées, entre guillemets, par le groupe. Et donc, si on travaille avec les groupes, avec leurs mots, leurs codes, justement, on peut arriver à faire bouger les choses. Et la place des politiques aussi est importante, la place des gouvernements, c'est aussi important. Donc, la lutte contre les mutilations sexuelles féminines doit être une affaire de tous. Ça doit être multifactoriel, ça doit être multidisciplinaire, comme on le dit. Donc, il n'y a pas vraiment de recette, mais c'est de travailler avec les personnes concernées elles-mêmes.
Personally, us, our organization doesn't work at village level, so we are not engaging with the communities direct, but we are supporting groups who are doing that. And they usually use this wooden model that was developed that they use to explain the complications of FGM and how it happens. But in other instances, they also take with them doctors who explain the consequences of FGM when it's done and the problem is associated with it. And then follow it with question and answer sessions, which, you know, help you know, facilitate kind of a dialogue between them and the doctor and discuss it. So through that, you know, knowledge is being gained to address the concerns, health concerns they may present and share with the doctor at that point. And for them to get a sense of why it is not beneficial to do FGM. In other instances, they also take some religious personalities who are not in favor of FGM. Although this religious community is divided among whether it is acceptable or not. Some are saying it's acceptable, some form of it. So there is a complication that, especially in Mali, it's a big issue. They use different forms of presentation to sensitize the community about it. But the best approach, of course, is when a dialogue happens, you know, discussion takes place, and the community themselves are participating and talking within themselves also to agree or disagree with the issue, because that means that they will continue to have that debates even when you leave.